Les enjeux internationaux, Xavier Martinet.
Au Cachemire, puisque lundi dernier, eh bien, trois jeunes séparatistes cachemiris étaient tués par l'armée indienne. L'un d'eux dit l'armée serait connectée à l'État islamique. C'est un fait quasiment inédit, mais une scène banale au Cachemire, une illustration de cette jeunesse en quête d'avenir que vous évoquez dans un article pour The Conversation. Charlotte Thomas, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice du programme Asie du Sud du réseau Noria. Merci d'être au téléphone avec nous. Vous avez travaillé sur les musulmans au Gujarat et au Cachemire, cet état du nord de l'Inde qui vit un regain de tension ce mois-ci. Depuis 2016, en fait, ce sont les pires violences que le pays, que la région connaît en 10 ans. Une violence donc devenue quotidienne dans une région surmilitarisée. On parle de 500 000 à 700 000 forces de sécurité. Manière pour New Delhi d'affirmer sa souveraineté sur un état en fait trinational, puisque disputé et occupé, on le sait, par le Pakistan à l'ouest et la Chine au nord et à l'est. Alors malgré les résolutions de l'ONU et les engagements du Pakistan à cesser de soutenir les groupes séparatistes, encore récemment, le Jammu et Cachemire, la partie indienne, est en fait un conflit à huis clos, selon l'expression d'un confrère journaliste. C'est même une nasse pour la jeunesse, comme vous l'expliquez, dans une impasse sociale et politiquement désabusée. En 2014, on se souvient que Narendra Modi avait fait du Cachemire un test pour le BJP, son parti, à l'approche d'élections générales en mai 2019. Donc l'année prochaine, y a-t-il une chance ou une volonté de sortir du piège cachemiri? Une chose est sûre, en tout cas Charlotte Thomas, c'est qu'entre les manifestations à coups de pierre et le combat armé, comme vous le décrivez, la situation rappelle un peu Gaza, mais à une échelle 10 fois plus importante. Jeunesse en première ligne, d'ailleurs, l'expression d'intifada est souvent employée.
Oui, tout à fait. Il faut savoir que la jeunesse qu'on observe aujourd'hui, ce sont pour la plupart des gens qui sont nés en fait en 90 ou après 90, c'est-à-dire après la mise en place de l'AFSPA, qui est en fait une disposition spéciale qui permet en fait la mise en place d'un régime militaire dans lequel toutes les libertés, la plupart des libertés fondamentales sont suspendues au Cachemire. Et ce régime de suspension des droits fait que cette jeunesse n'a jamais vécu en fait sous un régime de liberté d'expression, de rassemblement, de liberté d'union politique. Par exemple, les syndicats étudiants sont interdits. Donc en fait, toute la voie politique est fermée d'une part, et d'autre part, il y a une présence militaire extrêmement importante au Cachemire, qu'on estime être d'ailleurs la zone la plus militarisée au monde, avec entre 600 à 700 000 soldats indiens en poste dans cette zone. Donc effectivement, cette jeunesse en fait n'a pas beaucoup de perspectives, puisqu'elle elle peine à pouvoir s'exprimer. Étant donné que tous les canaux sont bouchés pour exprimer leurs opinions et faire porter leurs opinions politiques.
Ouais. Alors cette jeunesse, sur les 14 millions d'habitants, il y aurait environ 5 millions de jeunes entre 10 et 24 ans. Une chose intéressante et que vous évoquez longuement dans votre article, c'est qu'il y a une véritable désertification socio-culturelle en fait, du fait de cette surprésence militaire.
Oui, c'est ça, c'est-à-dire que la mise en place de ce régime militaire a été, comme je le disais, avec une suspension des droits, mais aussi avec une sécurisation intensifiée de la vie quotidienne. Donc je pense par exemple à ce que j'ai pu observer à Srinagar, la capitale du Cachemire indien, donc de la vallée, où les cinémas en fait ont été réquisitionnés pour en faire des postes de contrôle militaires. Il y a également des grosses difficultés à organiser toute forme d'événements culturels, étant donné que tout est sécurisé et que les rassemblements de personnes sont interdits ou très très contrôlés. Il y a aussi des énormes problèmes par rapport à la scolarisation, puisqu'en fait, dans ce régime très militarisé, on observe beaucoup beaucoup de journées de couvre-feu, couvre-feu qui dure toute la journée, donc l'école est suspendue, les enfants ou les étudiants ne peuvent donc plus se rendre à l'école.
Oui, je crois que vous donniez des chiffres extraordinaires quand même, de journées manquées d'école, quasiment la moitié, un tiers des journées totales.
Oui, c'est ça, sur les entretiens que j'ai pu mener, en fait, dit qu'entre 50 à 80 journées d'école sur 180 au total étaient en fait annulées par problème de couvre-feu, de suspension des cours, donc qui vont avec ces couvre-feux. Et vous faisiez référence au début de la nouvelle vague d'insurrection qui a commencé en juillet 2016. Donc le 8 juillet 2016, suite à la mort d'un jeune combattant emblématique, Burhan Wani. Et à partir de juillet 2016 jusqu'en fait fin novembre 2016, toute l'intégralité de la vallée du Cachemire a été mise sous couvre-feu. C'est-à-dire, quand on en discute avec la population et notamment avec les jeunes, une impossibilité à sortir de chez soi, la suspension des réseaux internet et téléphoniques, et aucune possibilité en fait d'organiser, de vivre en fait normalement. Donc quand vous discutez avec ces jeunes, ils vous témoignent en fait leur ennui profond déjà de leur vie quotidienne et leur frustration qui facilement peut se transformer en colère, étant donné que vous rajoutez à cette impossibilité de s'exprimer politiquement l'impossibilité de vivre comme un jeune indien normal, alors que le gouvernement indien prétend que le Cachemire est le Jammu et Cachemire est un État indien comme les autres. Or, oui. Dans les faits, ça ne se passe pas comme ça.
Au point que comme vous le dites, un des jeunes, l'avenir pour les jeunes, c'est de devenir Burhan, ou c'est plutôt un chercheur qui vous dit ça. Donc ce Burhan Wani, justement, un des commandants du Hezbollah al-Mujahideen, qui est le principal parti combattant séparatiste historique, lui qui avait 22 ans ou 21 ans, qui a été tué, qui est effectivement un leader emblématique, à quel point il vous semble un leader attractif aujourd'hui pour la jeunesse, entre ceux qui lancent des pierres et ceux qui souhaitent devenir des combattants effectifs?
Alors Burhan Wani, en fait, ce qui a été effectivement, pourquoi il est devenu un idole, c'est que, comme vous le disiez, donc c'est un jeune Cachemiri combattant du Hezbollah Mujahideen, alors que beaucoup de combattants étaient d'origine pakistanaise. Lui, il est donc Cachemiri, c'est un enfant du sol. Il combat aussi à visage découvert, ce qui est très important pour les Cachemiris avec qui vous en parlez et qui éprouvent une forme d'admiration pour lui. Et en plus, c'est un jeune qui avait en fait, qui était bien inséré socialement, puisqu'il était, en fait, il a fait des études jusqu'au niveau du bac à peu près, et il se préparait à rentrer dans ses études supérieures. Et donc en fait, il a choisi de mettre un terme à cette carrière entre guillemets toute tracée de classe moyenne Cachemiri pour prendre le maquis il y a quelques années. Enfin, il avait à peu près 17 ans quand il a pris le maquis. Et il a pris le maquis d'ailleurs suite à une énième arrestation de la part de l'armée indienne, pardon, en poste au Cachemire, où il a été humilié. Et ça a été un petit peu, pour le dire facilement, mais la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et il a donc décidé de prendre le maquis à cette époque-là. Ouais. Et il a été tué en juillet 2016. Donc en fait, il a eu, par rapport à d'autres combattants, il a une existence de combattant assez longue, puisqu'en général, les jeunes Cachemiris qui rejoignent le maquis n'ont une espérance de vie qu'entre 6 à 8 mois maximum, puisque les conditions sont difficiles. Alors que lui, donc, a vraiment eu le temps, en fait, d'instaurer un petit peu aussi sa légende quelque part. Et pour ce faire, il a beaucoup utilisé les médias sociaux, notamment Facebook. Donc, par ce médium-là, il s'adressait directement à la jeunesse en parlant sa langue. Il y a certaines vidéos aussi où il fait de la musique. Enfin, donc, il s'adressait, en fait, tout simplement, il y a une communauté d'âge, il s'adressait juste facilement à ces jeunes-là, aux jeunes Cachemiris, pardon, avec les moyens de communication de notre époque.
Et donc lui tué en 2016, en juillet 2016, une année dont vous dites que c'est une étape à plusieurs égards, parce qu'on voit aussi les filles qui se mettent elles aussi à jeter des pierres. Et puis un phénomène peut-être encore plus inquiétant, c'est que la figure attractive aujourd'hui, donc ce n'est plus Burhan Wani qui a été tué, mais un autre commandant ancien, lui radicalisé, ancien du Hezbollah al-Mujahideen, qui s'appelle Zakir Moussa, qui a été adoubé par Al-Qaïda l'année dernière. On dit qu'il n'est pas très puissant, mais le simple fait qu'il soit attractif, est-ce que ce n'est pas ça qui est le plus inquiétant?
Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'il faut effectivement remettre en perspective l'aura d'une part et d'autre part le pouvoir de Zakir Moussa, parce qu'effectivement c'est un ancien du Hezbollah al-Mujahideen qui devait reprendre le poste entre guillemets de Burhan Wani et qui a fait en fait sécession au Hezbollah al-Mujahideen pour rejoindre Al-Qaïda dans le continent sud-asiatique. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a donc un changement de récit, parce que dans les Hezbollah al-Mujahideen, évidemment il y a une rhétorique entre guillemets islamique, au sens où on parle de djihad et de choses comme ça, mais qui sont liées à la libération d'un territoire, qui est donc le Cachemire. Alors que quand on s'inscrit plus dans une mouvance telle qu'Al-Qaïda en Asie du Sud, on est sur un djihad transnational où la notion de territoire s'efface. Donc c'est là où est important, la distinction est importante. Et effectivement, Zakir Moussa n'est pas puissant puisqu'il n'a pas d'armes ou très peu, hormis celles qu'il arrive à dérober, mais lui-même n'est pas approvisionné directement en armes. Mais il a un récit qui séduit aujourd'hui une partie de la jeunesse, pas toute, mais une frange de la jeunesse, notamment certains lanceurs de cailloux ou stone pelters, qui sont attirés justement aussi par l'effet d'affichage, parce qu'aujourd'hui, Al-Qaïda ou l'État islamique, ce sont des firmes quelque part. Donc il y a aussi tout un aspect très communicationnel là-dessus. Donc évidemment, c'est cette évolution vers une radicalisation des revendications et une islamisation, entre guillemets, de la cause politique originelle qui est en tout cas questionnante et qui mérite qu'on s'y intéresse.
Et certainement une situation dont on aura à reparler avant les élections de 2019. Merci Charlotte Thomas, directrice du programme Asie du Sud du réseau Noria, podcast information vidéo sur le site et le fil Twitter. Bon week-end. Dans Le Monde, à lundi, nous parlerons certainement de la Russie. On n'a pas fini de chercher à qualifier le régime du Kremlin.